Vous êtes bien sur France Inter, 18h10. Tout de suite, c'est le Mac de l'été. Anna Sigalevitch, bonsoir.
Bonsoir Antoine Geoffin. Bienvenue à tous dans le Mac de l'été.
Dans sa nouvelle, Sarrazine, Balzac, parlant d'un castrat déguisé en femme, écrit cette phrase. C'était la femme avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiment. Qui parle ainsi? Est-ce le héros de la nouvelle intéressé à ignorer le castrat qui se cache sous la femme? Est-ce l'individu Balzac, pourvu par son expérience personnelle d'une philosophie de la femme? Est-ce la sagesse universelle, la psychologie romantique? Il sera à tout jamais impossible de le savoir, pour la bonne raison que l'écriture est destruction de toute voix, de toute origine.
Bonjour Gérard Garouste.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire?
C'est un texte d'une conférence qui s'appelle La mort de l'auteur et qui a été repris dans un roman dans un texte de Roland Barthes, SZ.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Au programme aujourd'hui, un peintre à part dans le paysage de l'art contemporain. Affranchi de toute mode, de tout courant, l'intranquille Gérard Garouste crée depuis ses débuts une œuvre faite d'énigmes, de matière, matière à penser et à interpréter, inspirée tant par l'étude des mythes que par celle du Talmud. Cet été, il a choisi d'être exposé dans un village en Haute-Loire, Chambon sur Lignon, un haut lieu de mémoire où l'ensemble des habitants reçut la distinction de juste parmi les nations pour leurs actes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. La pensée juive eut droit de citer sur ce plateau d'Auvergne aux heures les plus sombres. Elle s'est même réinventée en se surnommant, non sans ironie, l'école des prophètes. Gérard Garouste et l'école des prophètes, c'est le titre de l'exposition qu'on peut découvrir au lieu de mémoire jusqu'au 29 septembre prochain. Une exposition où les toiles du peintre entrent en dialogue avec les textes de ce groupe de penseurs. Bienvenue dans le Mac de l'été.
France Inter. Da. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Gérard Garouste, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu envie de nous lire ce texte, d'entrer dans l'émission avec ce texte de Barthes?
Parce que c'est un texte essentiel dans ce 21e siècle, je dirais. Et c'est quelque chose que je ressentais depuis des années dans ma... Parce que il s'agit d'écriture, mais en fait c'est valable pour n'importe quelle création, et pour la peinture c'est tout à fait valable. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup la place de l'auteur et la place du lecteur, la place du spectateur. On est quand même à une époque que, vous savez, Barthes a été très influencé par la psychanalyse. Et donc, qu'est-ce que, finalement, le plus important des deux, c'est pas l'auteur qui doit disparaître, c'est le lecteur qui interprète. Et on n'oublie pas qu'à cette époque-là, bien avant de Marcel Duchamp dans les années 15, par son œuvre, remet en question l'auteur,
la
justement.
La place de l'auteur et du créateur.
Voilà. Donc là, ce que je vous ai lu, évidemment, c'est le début de cette conférence. Vous avez après une dizaine de pages pour expliquer un peu le fond de sa pensée.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Early dawning,
Les Velvet Underground Sunday Morning dans le mag de l'été sur France Inter. Gérard Garouste, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous peignez en musique ou vous avez plutôt besoin de silence ?
L'introduction dans l'atelier, d'arriver dans l'atelier, oui, je mets de la musique. Mmh. Et selon le tempérament, ça peut être du classique, mais ça peut être aussi de la musique de jazz, enfin surtout de musique indienne. Ah. Mais ça peut être aussi Johnny Cash, par exemple.
Mmh. Enfin, ou les Velvet Underground. Non, vous me disiez que vos petits-enfants vous ont
piqué
vos disques.
Ils m'ont piqué tous mes disques. C'était des 33 tours.
C'est à nouveau très à la mode. Ils ont des platines. Gérard Garouste, le Chambon sur Lignon, où a lieu votre exposition Gérard Garouste et l'école des prophètes, c'est un lieu qui est hautement symbolique, hein, que vous avez visité l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a mené sur ce plateau qui est à majorité protestant d'ailleurs?
J'ai été invité à le connaître par le MAJ, le directeur du MAJ.
Le musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Voilà, et surtout, alors, on découvre l'histoire, le côté de la résistance, le côté protestant avec deux pasteurs extraordinaires. Et puis ces trois aspects qui est la résistance, l'aspect protection des enfants, où dans toutes les fermes, les enfants étaient cachés. Avant de partir ensuite, donc de partir en Suisse, pardon. Et puis le troisième côté, c'est en effet l'école des prophètes, c'est-à-dire on cachait aux enfants leur identité, où il faut pas dire que vous êtes juif et tout ça, mais en même temps, on va dire, attendez, vous avez une culture, vous avez, et tout d'un coup, avec un peu, en effet, comme vous le disiez, un peu avec humour, Chouraki, qui a lancé un peu cette idée d'école.
André Chouraki,
qui est un exégète avec d'autres. Ils ont décidé de faire un enseignement assez pointu, parce que des gens comme Gordon va jusqu'au du Talmud, on va jusqu'à la Kabbale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui m'intéresse, c'est surtout aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences d'après-guerre, où ça a donné l'école d'Orsay. L'école d'Orsay, dans la pensée juive, ça a donné Lévinas.
Vous expliquer ce qu'est l'école d'Orsay.
L'école d'Orsay, c'est que justement, ces penseurs, ces intellectuels, vous savez, le hasard de Chambon, c'est qu'il y a eu des intellectuels comme Marcel Camus, comme Albert Camus. Marcel Pagnol, Francis Ponge. Il y a eu des historiens comme Jules Isaac, Paul Yakov, Pierre Vidal-Naquet. Et puis dans les penseurs juifs, il y a eu Jacob Gordin, Georges Vadja, Georges Levitt, c'est eux qui ont travaillé cette école des prophètes.
Voilà. Mais il faut expliquer, donc cette école des prophètes, c'est une façon d'aborder le Talmud qui n'est pas uniquement religieuse, mais qui est aussi
c'est-à-dire
très philosophique.
C'est la pensée juive. L'éthique juive, c'est-à-dire la pensée juive, et c'était pas du tout une école rabbinique ou quoi que ce soit, non. Parce que le Talmud, c'est ça qui est extraordinaire, on le connaît pas vraiment bien, mais le Talmud, c'est une étude du texte, mais c'est une psychanalyse du texte. C'est pas un hasard si Freud avait son père qui était talmudiste, parce que il y a une pensée qui rejoint jusqu'à une pensée très moderne. Roland Barthes n'est pas loin.
une pensée talmudique dans le sens où on a le droit, enfin, c'est-à-dire on doit même lire les textes en réfléchissant. C'est-à-dire qu'on est actif, on peut remettre en question les textes. L'interprétation fait partie absolument du projet, hein, si je puis dire. On n'est pas passif, en tout cas, en tant que lecteur du Talmud.
C'est-à-dire que le côté mythe du texte biblique, la Torah, la Bible, c'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est l'interprétation jusqu'à la valeur des mots, c'est-à-dire
qui ont plusieurs sens.
On va parler de concordance et d'intertextualité. Et là, le Talmud est, je dirais, une pensée très très moderne, parce qu'il faut attendre justement la pensée du XXe siècle pour retrouver cet état d'esprit. Ces penseurs, après la guerre, tout d'un coup, cette école des prophètes perdue au fin fond de la Haute-Loire, à Paris, va créer l'école d'Orsay, qui est tout d'un coup une école de philosophie. Et là, je dirais qu'en Europe, c'était tout d'un coup très rare que tout de suite après-guerre...
C'est ça, tout de suite après-guerre, donc après la tentative d'extermination quand même des juifs d'Europe, il y a eu ce relan d'identité juive, en fait, la faire perdurer et continuer à la faire évoluer et à ce que ça ne se soit pas une culture morte, mais une culture vivante.
Exactement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire attendez, il y a la guerre, il y a le nazisme, l'Europe entière est occupée, il y a Pétain, etc.
Et nous, on continue à penser, et
l'identité, et ça, c'est extraordinaire.
Alors, vous parliez de Roland Barthes, qui effectivement a mis aussi votre pensée, je crois, en éveil à une certaine période, et encore aujourd'hui, apparemment. Bien, on va l'écouter, Gérard Garoust, on écoute Roland Barthes.
Je suis incapable, dans un musée, de rester planté un quart d'heure devant un tableau. Je sais que c'est possible, d'autres le font, mais moi je ne peux pas. Je cherche la capture, je cherche le ravissement, le rapt, je cherche à être ravi par l'image, exactement comme dans l'épisode amoureux, on cherche, enfin si on a une structure d'amoureux, on cherche inlassablement ce qu'on appelle vulgairement le coup de foudre. Dans la peinture figurative... Ce que j'aime, c'est qu'elle raconte quelque chose. C'est un attrait romanesque pour le récit. C'est ça que j'aime. C'est tout ce qu'il y a de romanesque, disons. J'aime aussi la peinture romantique, dans la mesure où c'est une peinture justement très narrative, voire pathétique. Et cette espèce d'élément narratif que j'aime, au fond, dans la figuration. Tandis que dans ce qui est hors du vrai, ce que j'appelle hors du vraisemblable, enfin hors de la figuration... Alors, j'aime profondément, mais là, je distinguerai, disons, ce qui relève de la couleur m'apparaît appartenir à l'ordre de la pulsion. Hein, j'aime la couleur comme quelque chose qui est pulsionnel, qui fait vibrer la pulsion, qui est donc toujours de l'ordre de la joie ou de la mort, au fond, qui s'enracine dans des zones extrêmement profondes.
Gérard Garoust, vous opinez du chef, vous acquiescez, ça vous parle, ce que dit.
Je sais qu'il aimait beaucoup, il préférait l'abstraction, Cy Twombly, je crois que c'était son peintre préféré. Et la figuration, là, il en parle gentiment, mais je
vous,
crois...
Vous n'y croyez pas trop à ce qu'il dit?
Non, je crois que la figuration vue par lui, justement, il en fait un...
Un Gabibulga. Mais alors, effectivement, vous le disiez au début, c'était vraiment moi la question que je voulais vous poser, en effet, sur le fait de mettre en jeu celui qui regarde, qui est essentiel dans ce que dit Barthes dans ce texte, où en effet le regardeur devient autant le créateur de l'œuvre que son auteur.
Oui.
Et ça, vous le dites beaucoup dans votre peinture, que c'est une peinture qui est faite d'énigmes, une peinture où on peut voir plein de choses. Oui. Et une peinture où, d'ailleurs, vous, enfant, vous avez regardé une peinture qui était chez vos parents quand vous étiez petit, une peinture que vous avez regardée de façon très différente au fil des années.
Oui. Mmh. Vous faites allusion à cette tapisserie, en
Absolument.
Fait.
Absolument. Oui, c'est une tapisserie, pardon,
c'est pas une peinture. C'est une tapisserie, oui, qui est tirée d'un tableau du XVIIe. La tapisserie n'était malheureusement pas du XVIIe, elle était gentiment 19e. Mais le sujet est un typique sujet classique. C'est le postier, comme ça, au XVIIe siècle, qui fait une étape dans une auberge pour avoir de l'eau.
Un postillon.
Un postillon, voilà, exactement. Un postillon. Et donc, la scène représente cette femme qui va donner une cruche à ce postillon qui repart tout de suite avec un en changeant de cheval. Enfin, vraiment, ça m'impressionnait beaucoup parce que alors là, pour le coup, c'était très figuratif. On la voyait bien. La tapisserie était très grande et je l'ai gardée d'ailleurs. Je l'ai pas exposée parce qu'elle est un peu kitsch, mais bon, c'était étonnant.
Alors, Gérard Garousse, dans l'exposition sont présentées une dizaine de vos peintures, des grands formats, hein, comme souvent avec vous. Il y a notamment un rouleau. Le rouleau d'Esther.
Oui,
est-ce que vous pouvez nous parler du rouleau d'Esther? Voilà. Alors, il faut dire, hein, c'est donc un texte que vous avez illustré, qui raconte l'histoire d'Esther, cette jeune femme juive, mariée sous une fausse identité au roi perse Assuérus, et qui parvient à déjouer le complot fomenté par le vizir du roi, hein, Aman, visant à exterminer les juifs. C'est une histoire très importante dans le judaïsme.
Oui, il y a même une fête pour Im, c'est-à-dire cette fête qui correspond aux enfants, pour les enfants, au déguisement, au carnaval. Cet office de Purim, mais si on le voit pour la première fois, c'est assez spécial. Mais c'est une commande, ce texte, de faire un original, c'est-à-dire sur parchemin, avec un texte qui est écrit par un sopher, c'est-à-dire un scribe qui
autorisé
à écrire avec une encre spéciale, etc. Et moi, c'est peut-être une des choses qui m'a fait où j'ai le plus paniqué en faisant ces peintures sur ce parchemin, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Moi, si je rate un tableau, je le jette, j'en fais un autre. Mais là, après le travail
sacré,
du scribe, il a passé des mois à écrire son texte. Et si je l'ai exposé dans cette exposition de Chambon, c'est parce que ce rouleau d'Esther, c'est un peu le premier génocide qui aurait pu...
La tentative de génocide de
supprimer la cour d'Assuérus. Le premier ministre Aman voulait exterminer le peuple juif. Et donc, tout d'un coup, c'est très proche de la Shoah. Dans ce rouleau d'Esther, on est invité à être toujours en éveil. Toujours en éveil.
Alors, vous avez créé une œuvre spécialement pour l'exposition, c'est le sablier ou l'Akedat d'Itsrak. C'est un tableau dans lequel on voit deux hommes, dont un qui vous ressemble pas mal. Hein. L'autre conduit un âne, un animal qui est très présent dans votre peinture, et là notamment qui est présent dans le pont de Varsovie et les ânes, qui est présent aussi dans un autre tableau qui me semble important, Gérard Garousse, dans votre histoire. C'est un tableau que vous avez fait récemment. Vous en parlez en fait, vous parlez d'un objet votre autobiographie, L'Intranquille. C'est le sous-main et l'âne. Alors, première question, pourquoi tant d'ânes ?
Pour plusieurs raisons, mais dans mes dernières peintures, c'est d'associer un mythe talmudique, enfin une agada, on appelle ça une agada, c'est-à-dire une petite histoire, une petite comptine autour d'un maître qui s'appelle Roni Amegalel, et à un moment donné, il voit un vieillard planter un jeune arbre et il demande qu'est-ce que tu fais? Il dit je suis en train de planter un caroubier. Et Roni lui dit mais ça sert à rien que tu plantes ton caroubier, tu sais bien qu'un caroubier ça met 70 ans avant de donner ses premiers fruits. Et il dit oui mais je plante pas ce caroubier pour moi. Je le plante pour... Donc c'est évidemment un symbole de la
transmission
exactement. Et ce vieillard,
et le rapport avec l'âne,
et ce vieillard avait une ânesse. Là-dessus, Roni va dormir 70 ans. Et quand il se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Donc il y a plus le vieillard,
il y a le caroubier par contre.
Le caroubier avec ses fruits. Et l'ânesse, elle a donné une multitude d'ânesses. Et donc voilà pourquoi tout d'un coup, les ânesses...
Les ânesses.
Ouais. Et à chaque fois, ça donne des sens différents. Et donc, c'est comme ça qu'il faut lire le texte.
Lire et interpréter. Donc, ouais. Des sens différents. Cet objet, le sous-main, il a un sens important, Gérard Garousse, dans
oui,
votre histoire.
Alors, ce sous-main, je le dis en effet dans l'Intranquille, c'est que... mon père était collabo pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il a gentiment spolié des magasins juifs, parce que ma famille était dans le meuble, mon grand-père avait été chez Lévitan, et quand la famille Lévitan a dû partir
Fuir.
Et fuir. Autant se servir. De toute façon, si c'est pas mon père qui s'est servi, ce serait quelqu'un d'autre. Donc, et donc, dans toute mon enfance, j'avais vu sous le bureau de mon père un très beau sous-main. Mm. Et un jour, il me dit bon, je fais changement chez moi.
Je te le donne.
Je vais changer de bureau. Oui. Alors je lui dis écoute, donne-le-moi ce sous-main parce que moi, je l'aime beaucoup. Je trouve c'est beau. Et il me dit est-ce que je t'ai raconté comment j'ai eu ce sous-main? Et là, il me raconte. C'est comme s'il m'avait donné un coup de pied dans l'estomac, parce que c'est vraiment la...
Et vous le dites que ce sous-main, vous êtes resté sous les bras. Très longtemps sur les bras.
Après, on était en province avec ma famille, je voulais pas faire de scandale. Et quand mon père est retourné chez lui à Paris, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais tu as entendu ce que tu m'as dit sur ce sous-main? Et là, il s'est mis tout de suite dans une rage pas possible et il m'a dit, mais t'as qu'à le brûler, ce sous-main. J'ai dit, non, je le brûle pas, je le mets sur ma table et ça sera mon sous-main mais il est pas à moi. Et ce qui est extraordinaire, grâce à l'intranquille, c'est que la famille...
Vous l'a contacté.
Oui, ils ont entendu une émission.
L'arrière-petite-fille.
L'arrière-petite-fille. C'est très amusant.
Alors, il y a une exposition, Gérard Garouste, en ce moment, au mémorial de la Shoah sur la spoliation des biens juifs pendant la guerre, qui s'appelle Le marché de l'art sous l'occupation. J'ai rencontré l'historienne d'art Emmanuelle Polak, la commissaire scientifique de l'exposition, que je vous propose d'écouter. Emmanuelle Polak, bonjour. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes la commissaire scientifique de l'exposition Le marché de l'art sous l'occupation. Alors, l'exposition commence par expliquer l'importance de l'art sous l'occupation et le goût très prononcé pour l'art des nazis. Hein. Rappelons-le, Hitler était un artiste raté et on voit à quel point ça, sous le Troisième Reich, l'art tient une place importante.
Oui, mon postulat de départ est de savoir ce qui s'est passé concernant le marché de l'art des œuvres modernes. Pourquoi les œuvres modernes? Parce qu'elles étaient décriées par les critères esthétiques nazis et notamment par Hitler lui-même, qui dès 1937 va organiser une exposition très célèbre qui s'appelle l'exposition de l'art dégénéré, Entartete Kunst, à Munich. Et on voit tout de suite qu'il y a une partition dans l'art préconisée par les nazis, avec d'un côté les œuvres participant des avant-gardes qui sont proscrites, qui sont bannies, et les Allemands n'ont plus la possibilité de les apprécier, de les regarder, c'est absolument condamné.
Pour autant, ce qu'ils appelaient l'art dégénéré n'a pas été détruit, hein. C'est plus ambigu que ça.
Oui, alors vous avez tout à fait compris, c'est exactement ça. On pourrait penser que l'art moderne a été détruit parce qu'il n'avait plus de valeur et tout, mais je me suis aperçue au cours de mes recherches qu'au contraire, il y avait une valeur intrinsèque qui était même connue des nazis, et loin d'être détruites, les œuvres, eh bien, participaient, et on les retrouve sur un marché de l'art un peu parallèle. C'est pour ça que j'ai essayé de voir comment en France, eh bien, ce discours des critères nazis allait venir infuser les mentalités, et notamment à travers la presse antisémite. J'ai dépouillé pour cela une série du journal Au Pilori, dans lequel il y a une rubrique sur l'art cachère, l'art zazou, et je me suis aperçue par la suite qu'une cinquantaine de galeries d'art à Paris, eh bien, allaient subir ce diktat de l'histoire du goût. Et donc, c'est ce qui m'a passionné de savoir sur ces 50 galeries vendant de l'art moderne, eh bien, quel était le sort de certaines galeries d'entre elles. Et c'est pour ça que immédiatement que sur 50 galeries, eh bien, 25 d'entre elles ont été arianisées et ou spoliées, dépossédées de leur stock ou de la collection des œuvres d'art.
Alors, dans la première salle, effectivement, on voit ça, on suit les parcours et les destinées de certains marchands, des marchands juifs. Il y a Pierre Loeb, il y a Paul Rosenberg, il y a René Gimpel et il y a Bert Veil qu'on voit beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de ces quatre très importants marchands d'art d'avant-guerre et de leur destin pendant la guerre?
Bert Veil, juive alsacienne, et une marchande d'art qui va subir les affres de l'antisémitisme. Et lorsqu'en dans les années 30, elle publie ses mémoires, eh bien, un article du Cahier jaune, vraiment hebdomadaire antisémite, va nous dire que Bert Veil, de race juive, n'a absolument aucune possibilité d'admirer l'art. Et on voit que l'activité de la galerie, eh bien, Périclite. Donc ça, c'est la première partie qui nous importe. Et puis ensuite, on va vers la galerie de Pierre Loeb, grand découvreur des avant-gardes, très proche de Picasso. Juif, alsacien, il est invité, je mets des guillemets, à arianiser sa galerie selon les lois de Vichy et notamment selon la loi du 22 juillet 1941. Et il prend en amont ses mesures administratives en trouvant un collègue qui va, eh bien, par un gentleman agreement, prendre la galerie et l'arianiser.
Alors, arianiser, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que tout le monde ne sait pas forcément.
Ça vient d'un terme allemand, Arisenrum, qui signifie mettre entre les mains d'Ariens des propriétés juives. Donc, c'est ni plus ni moins mettre à la tête d'une galerie, d'une entreprise, un Arien en lieu et place de l'ancien propriétaire juif. C'est tout simplement déposséder les familles juives, et ça, c'est une loi de Vichy qui va venir en surenchère aux ordonnances allemandes. Alors, Pierre Loeb va arianiser sa galerie auprès d'un collègue, part mettre les siens à l'abri, à la Havane, et de retour à Paris, lors de l'immédiate après-guerre, eh bien, Pierre Loeb va voir son confrère et essaye de récupérer sa galerie. Là, son confrère, eh bien, tord le nez et peu enclin à vouloir lui restituer sa galerie. Et Pierre Loeb va se confier à Pablo Picasso, qui est son très proche ami, et lui dire, voilà, écoute, je rencontre des difficultés. Pablo Picasso décroche son téléphone, appelle le collègue et lui dit, Pierre est revenu, Pierre reprend la galerie. Et on voit bien que sur la présence de Picasso et sur son intervention, eh bien, la galerie de Pierre Loeb a pu être restituée. Et dans cette aventure, Pierre Loeb a perdu quelques œuvres pour lesquelles, eh bien, la famille a obtenu une indemnisation.
Alors, il y a l'histoire de Paul Rosenberg aussi qui est très importante parce qu'elle est significative. Lui, c'était un très grand marchand. On le connaît plus, hein. Son histoire est célèbre avec une galerie très fameuse rue La Boétie qui, lui, est parti à New York. Alors là, c'est des centaines, des milliers d'objets, hein, même. Et l'histoire est intéressante aussi parce que il y a la question de la restitution qui se pose avec la question de la spoliation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Oui, nous relatons, eh bien, la spoliation à nul autre pareil d'environ 350 œuvres de cette galerie, formidablement intéressante parce que tout d'abord c'est un des plus grands marchands des avant-gardes. Il a Picasso et Matisse sous contrat en 1939, il a également Braque, mais Paul Rosenberg c'est surtout la fin d'une grande galerie, c'est une grande perte pour le patrimoine artistique français parce qu'on perd un des plus grands galeristes français qui part aux États-Unis comme vous l'avez dit, non sans avoir essayé de mettre à l'abri ses œuvres d'art. Pour autant, certaines d'entre elles, et on sait exactement que 162 d'entre elles confiées au coffre de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie de Libourne a été ouvert par effraction par les autorités occupantes et que le directeur de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux en a dressé un inventaire. Cet inventaire, je l'ai retrouvé dans les archives du musée de l'Aquitaine il y a quelques temps et j'ai pu véritablement m'apercevoir eh bien, qu'il y avait la spoliation de 18 Matisse. C'est ainsi que je suis partie sur les traces de certains Matisse de ce coffre de Libourne et que j'ai pu, à partir de 2012, eh bien, participer à la traçabilité d'une œuvre qui était dans un musée norvégien et pour lequel on a observé une restitution à la famille de Paul Rosenberg en 2014. Donc, sur ces 350 œuvres, on peut dire qu'aujourd'hui, il y en a encore une cinquantaine d'œuvres en déshérence de cette grande galerie d'art spoliée et pour lequel nous perdons à tout jamais eh bien, l'empreinte de Paul Rosenberg qui ne reviendra jamais en France.
Alors, en Allemagne et aux États-Unis, il y a depuis longtemps hein, une démarche qui a été beaucoup plus active avec des catalogues des ventes qui sont publics, qui sont publiés sur Internet. En France, on a quand même longtemps traîné la patte avec ça.
On sait qu'une nouvelle mission a été créée dernièrement, qu'un décret a nommé David Zivi à la tête de cette mission en avril 2019.
Suite à la commémoration de la rafle du Veldiv en 2018, où Édouard Philippe a dit « là, il faut que l'État français devienne réellement proactif ».
rétroactif, il l'est depuis Aurélie Filippetti, voilà, qui a pris la décision en 2013 que le temps était venu de passer à la vitesse supérieure. Et autrefois, on attendait que les familles viennent réclamer les œuvres d'art. Et donc là, c'est l'État qui, on inverse la présentation de la charge. Et ce n'est plus tant aux familles à présenter ces charges qu'à l'État, eh bien, d'aider le plus possible ces familles.
Merci beaucoup Emmanuel Polak.
Avec plaisir, merci à vous.
Le MAC de l'été sur France Inter.
Gérard Garouste, c'est incroyable hein, qu'encore aujourd'hui, nombre d'œuvres ou objets n'aient toujours pas été restitués aux familles.
Oui, oui, oui. J'ai une histoire. J'avais un ami j'ai toujours un ami d'école, Patrick d'Auberville, oui. Et en fait, son père, c'est la famille Bernheim, la fameuse galerie Bernheim, avec des artistes très importants de l'art moderne. Et il y avait une exposition russe au musée du Luxembourg, et lui, il est devenu expert sur les tableaux de son père, en fait, de ses collections. Et il voit un tableau qui était de la famille de la galerie Bernheim, en fait. Donc, il fait une démarche pour restituer le tableau, et paraît-il qu'après toute une démarche, etc., puisque c'était une collection de Moscou, une des plus belles collections de Moscou, d'État, etc., on lui a fait comprendre que si vraiment il compliquait trop les choses à vouloir restituer ce tableau, il n'y aurait plus d'exposition, il y aurait tout d'un coup une espèce de...
Alors... Oui, parce qu'il y a une ambivalence de la part des musées aussi, qui, comme ils ont acquis ces œuvres depuis maintenant plus de 70 ans, ils considèrent qu'elles sont aussi les leurs, et la notion de propriété des familles spoliées est compliquée en fait pour eux à mettre en place. Oui, la restitution est compliquée.
Et puis alors en plus, en face, c'est un musée national, donc oui. Pour faire le poids, disons, tout d'un coup, il y a des espèces de jeux politiques.
Gérard Garouste, cette histoire de spoliation, d'antisémitisme, ça a été la cause d'une rupture très importante avec votre père.
Ça c'est sûr, mais il y a une expression, en hébreu qui dit Gamzou Letova.
Cela oui, aussi. Fait du mal le mieux, fait du mal quelque chose.
Faisant quelque chose de bien. Oui. C'est-à-dire, en fait, l'antisémitisme de mon père, c'est un peu de me mettre devant ces réalités. Où il faut que moi-même je fasse un choix, où je prends le costume de la famille et je me tais, j'accepte, ou alors je commence à réagir et à ce moment-là je suis envahi d'un sentiment d'injustice, de trucs, et puis tout d'un coup on est pris dans une belle histoire, on a envie d'étudier, on a envie de pourquoi, mais pourquoi l'antisémitisme? Moi quand j'étais en pension, j'avais un petit copain parmi tant d'autres, qui j'avais compris qu'il avait dit qu'il était juif, et je me souviens, mais on était petit, enfin jeune, très jeune, je lui ai dit mais c'est quoi un juif?
Mais parce que en même temps votre père était à la fois, enfin c'est pas si simple évidemment votre histoire familiale et votre relation avec votre père, parce que votre père il était antisémite, oui il détestait les juifs, et en même temps comme bon, d'ailleurs beaucoup d'antisémites, il avait une sorte de fascination pour les juifs, et en même temps votre père il vous aimait. C'est-à-dire qu'il voulait que vous fassiez des études, il voulait aussi vous protéger de lui en vous envoyant en pension, ce qui peut paraître difficile, mais en fait c'était mieux et pour lui et pour vous.
Il en était conscient.
Et puis, il y a une chose aussi qui n'était pas, j'imagine, si évidente au début des années 60, c'est que vous étiez un très mauvais élève à l'école, oui. Vous étiez un cancre, voilà, vous n'arriviez pas à écouter, vous n'avez pas eu votre bac.
J'ai eu un bonnet d'âne. Hein,
un bonnet d'âne, l'âne revient. Je sais ce que je voulais vous faire dire tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas dit. En fait.
Alors je me suis baladé avec un bonnet d'âne à la récréation, il m'a dicté dans le dos quand même.
Et vous n'avez pas votre baccalauréat, mais vous dites à votre père, bah voilà, vous aviez un don pour le dessin, donc petit déjà il vous paye des cours de peinture, et puis ensuite il vous inscrit aussi à une sorte d'école préparatoire, l'école Charpentier, oui, qui préparait aux Beaux-Arts, donc il vous a quand même soutenu à sa façon aussi.
Il m'aimait, hein. C'est ça qui est un peu éprouvant d'ailleurs, autant il était très très dur avec ma mère, c'est vraiment très dur, c'est peut-être ça qui m'a donné une force par rapport à lui, pour me révolter par rapport à lui. Mais sinon, avec moi, il m'aimait. C'était quelqu'un de avec un caractère très dur, mais au moins il m'aimait à sa manière. Il y avait une vraie attention de sa part, un vrai amour, tout simplement.
Alors, quand vous êtes vous avez commencé à étudier les beaux-arts, vous avez découvert donc les grands peintres. Vous étiez inscrit à un cours d'art moderne. Vous avez découvert Picasso. Vous avez découvert Duchamp. Et alors là, c'est la catastrophe en fait, parce que avec Picasso, enfin, vous dites, je trouve quelque chose. Est-ce que je peux vous citer? Vous dites que Picasso était de ces génies qui tuent le père et le fils. Il avait peint jusqu'au bout et magistralement cassé le jouet.
C'est vrai. C'est là, tout d'un coup, on arrive au mouffin de l'avant-garde, quoi. C'est-à-dire.
Et Duchamp, pareil.
Et alors là, oui, alors là, c'est
encore pire, même.
Encore pire, ouais. Parce que c'est encore pire. Moi, j'étais au Beaux-Arts. C'est deux baves dans la figure, là. Entre Picasso et Marcel Duchamp.
Et Duchamp. Vous étiez tétanisé.
Tétanisé, voilà. Parce que l'un, il va jusqu'au bout d'une côté iconoclaste, et l'autre, Marcel Duchamp, il est même plus iconoclaste.
L'artiste n'existe plus, en fait, c'est l'objet qui est l'artiste.
Il prend un urinoir, il l'expose dans une galerie à l'envers, et il appelle ça une fontaine, et puis il prend un porte-bouteille, il veut l'exposer, il expose, il y a une rétrospective du surréalisme en Allemagne dans les années 70, et ce porte-bouteille, il était de 1915. Le conservateur a dit, mais écoutez, j'arrive pas à recevoir votre porte-bouteille. Et Duchamp répond, mais écoutez, c'est pas un problème, vous allez
au supermarché,
vous en achetez un autre. Et celui qui était exposé au Beaubourg, il avait écrit 1915-1970.
Alors c'est à ce moment-là que vous, donc petit à petit, vous essayez de trouver votre voie qui va être du côté de la figuration, du côté de la matière. Vous commencez à fabriquer même votre peinture. Hein. Alors petit à petit, le succès vient. Vous êtes quand même très très soutenu par votre femme Elisabeth qui vous supporte profondément, même dans des moments extrêmement complexes, jusqu'aux années 80 où, grâce à Léo Castelli, un grand marchand d'art à New York, vous, tout d'un coup, vous explosez complètement.
Léo Castelli, c'est le plus grand, à l'époque, c'était le plus grand marchand international. Il est à New York. Et tout d'un coup d'être invité à exposer chez lui, c'était incroyable. C'est une vraie grande chance. C'était une dizaine d'artistes français qui étaient invités à exposer à New York. Et tout de suite, il y a des marchands qui m'ont contacté pour dire, vous savez, on aime beaucoup ce que vous faites, mais est-ce que le vieux lion a vu vos tableaux? Si le vieux lion ne veut pas travailler avec vous, contactez-nous, parce que nous, on veut travailler avec vous. Je me dis, mais c'est quoi le vieux lion? Le vieux lion, c'était Léo Castelli.
Et Léo Castelli,
comme un grand seigneur, dit... ce que vous faites a beaucoup plu. Nous allons travailler ensemble.
Il vous a pas demandé votre avis. Il vous a annoncé que vous auriez l'honneur de travailler avec lui.
Oui, mais il faut dire que c'était un grand marchand.
Et ça a complètement bouleversé votre vie et votre carrière.
Bien sûr, oui, parce que je crois que même encore aujourd'hui, cette figuration que je fais, vous savez, en France, on aime beaucoup l'art conceptuel, Buren, Boltanski, c'est une actualité de l'art contemporain qui marche très fort en France, mais en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, on aime beaucoup les peintres, Sigmund Freud, ou je ne sais pas quoi, oui. Pas Sigmund Freud,
non,
mais
non.
Lucien Freud, pardon.
Lucien Freud, ouais. Figuratif.
Et on aime les figuratifs, et donc ma carrière n'aurait pas été celle-là s'il n'y avait pas eu Léo Castelli.
Gérard Garoust, nous avons pour habitude de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Est-ce que vous acceptez de vous prêter à l'exercice?
Oui, bien sûr, oui. Mais attendez, qu'est-ce que c'est pour le chinois?
Ben vous allez voir. Ah bon? Attendez, il y a le gong. On laisse résonner le gong. Gérard Garoust, si vous étiez un geste.
Si j'étais un geste, ce serait un geste dans le dos, une manipulation dans le dos que personne ne pourrait voir.
Donc un geste caché.
Un geste caché.
Si vous étiez un moment de la journée, Gérard Garoust.
Très tôt le matin.
Avez-vous de l'humour quand vous êtes seul?
Je crois que c'est difficile d'avoir l'humour tout seul, mais je suis très réceptif à tout, dès que l'humour se présente. Mais par exemple, j'ai eu beaucoup d'humour avec mon chien, mais même mes chats, actuellement, j'ai plus mon chien, mais j'ai
deux
chats.
Mais là, vous n'êtes pas seul quand vous êtes avec vos chats
oui,
et vos chiens.
Oui, tout seul, je peux pas rire tout seul de moi, non. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est prêt à rire, moi, je suis partant. Et puis, j'ai été bien formé à ça par des amis comme Jean-Michel Ribes, où on a beaucoup ri ensemble.
Craignez-vous davantage le jugement d'un ami ou celui d'une galerie ?
D'un ami. Le jugement d'une galerie, c'est quelque chose de professionnel. Si vous parlez de galerie, vous parlez du marché de l'art. Et le marché de l'art, c'est selon les modes, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Gérard Garouste, si vous étiez un prophète ?
Je serais quelqu'un qui est considéré comme un prophète et pas officiel, qui est Ezra.
Gérard Garouste, aimeriez-vous être votre femme ?
Ah non, franchement, la pauvre. Non, je crois. Elle a tellement galéré avec moi que ce serait vraiment pas. Non, je souhaite pas du tout avoir un compagnon comme moi.
Non. Gérard Garouste, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un ami pour vous-même ?
Je suis assez réconcilié. Vous savez, je suis comme quelqu'un qui s'est donné des coups de marteau sans savoir pourquoi. Et j'ai arrêté de me donner des coups de marteau, donc ça va beaucoup mieux.
Gérard Garouste, de quoi êtes-vous reconnaissant ?
De grandes qualités de ma femme.
Gérard Garouste, quelle mort aimeriez-vous rencontrer ?
Quelle mort aimeriez-vous ? Être tout à fait lucide sur ma mort.
Non. Quelle mort, quelle personne morte.
Quelle mort.
Oui.
Quelle mort.
Enfin, d'ailleurs, vous pouvez. Vous interprétez ma question, vous avez le droit à répondre à ce que vous voulez. Je sais.
Non, mais quelle mort j'aimerais rencontrer. Je crois que j'aimerais quand même bien rencontrer Einstein, quand même.
Et du coup, quelle mort aimeriez-vous rencontrer?
J'ai envie de répondre à ce que j'avais compris dans votre question.
Voilà, c'est pour ça que je vous repose.
Et moi, je souhaite une mort très lucide, pas du tout le type endormi qui n'est pas conscient de sa mort. Au contraire, moi, je voudrais être avec mes enfants, mes petits-enfants et les bénir.
Gérard Garouste, le tableau que vous avez le plus regardé ?
Un tableau du Tintoret qui s'appelle. Le transport du corps de Saint-Marc. Le transport du corps de Saint-Marc. Il y a deux versions. Il y a une à Venise et l'autre à Rome, je crois. Et c'est un tableau. Toute l'histoire, tout ce que j'attends de l'histoire de la technique de la peinture est dans ce tableau. Pour apprendre à peindre, il faut regarder ce tableau.
Gérard Garouste, quelle est votre devise favorite ?
Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. C'est une devise.
C'est ce que vous dites, c'est en préambule de votre livre,
L'Enfant qui est. Oui, en effet. C'est une citation d'un maître, Rabbi Nachman de Breslav. Et j'ai pris connaissance on travaille avec Marc-Alain Wachnin sur ce philosophe, ce sage.
Le Mac de l'été sur France Inter.
C'est le moment, Gérard Garouste, de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été.
Si on veut de la bonne huile, il faut de belles olives. Donc on voit, elles sont pas piquées, elles sont belles, elles sont saines. Je les aime, mes olives. Oui, j'en suis fière.
Aujourd'hui, une sortie exceptionnelle hors office aux éditions Les Équateurs du livre Les secrets de l'olivier d'Émilie Borel pour sauver des oliviers. Émilie Borel fabrique l'une des meilleures huiles d'olive AOP du monde en Haute-Corse, dans le domaine d'Oltremonti, où elle a planté de ses mains une oliveraie de 35 hectares fondée sur les principes de l'agriculture biologique. Les banques auprès desquelles elle a contracté un emprunt pourraient la contraindre de déposer son bilan ce 28 août. Elle se bat donc pour défendre ce domaine. L'histoire de l'olivier est secrète et intense, écrit Émilie Borel. Fragile, il aime la paix et ne s'épanouit que lorsque la folie des hommes s'atténue et laisse place à la douceur de la vie. L'olivier est un géant au cœur lumineux. Double actualité. pour Robin Renucci cet été avec du théâtre partout et pour tous. Avec d'abord l'association Aria qui propose tout l'été des stages de théâtre ouverts à tous en Corse, comédiens, techniciens, professionnels et amateurs, afin de construire en 4 semaines une dizaine d'œuvres. Nous sommes dans la période de représentation, puisque jusqu'à samedi, le 10 août, vous pourrez découvrir les spectacles dans les champs ou les châtaigneraies de la vallée de Gjunsenni. Le public devient spectateur. Ce soir, vous pourrez notamment voir notre ou leur Tartuffe à 21h à la place de l'église Pioggiola. Et c'est aussi les 60 ans des Tréteaux de France et l'Île-de-France fête le théâtre jusqu'au 1er septembre pour la 3e fois consécutive, l'occasion de proposer gratuitement des ateliers d'initiation à l'art théâtral dans les îles de loisirs du Port aux Cerises, de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin en Yvelines. Devenez spectateur, devenez acteur. Gérard Garouste, est-ce que vous avez le souvenir de votre première grande émotion face à une œuvre ? Pictural, cinématographique, enfin ce que vous
voulez. Écoutez, je crois que la première grande émotion, c'est pas du côté de la peinture en tous les cas. Non, je crois que les émotions les plus fortes, elles sont musicales, la musique.
Avec quoi ? Votre premier souvenir, votre premier grand souvenir ?
J'ai envie de vous parler de, pourtant j'étais pas jeune, mais moi, les premiers souvenirs de la musique, c'est le Palace avec la musique disco.
Fabrice Aimer avec qui
c'était tellement violent comme, et passionnant et glamour et érotico, tout ce que vous voulez. Que c'était tellement génial.
Le premier choc physique,
ça,
en
vraiment,
tout cas.
C'est un choc, ça efface tout le reste.
C'était Dreams par l'épée.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Le Perchman n'est pas là, tu te rends compte ? Qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Viens là, nom de Dieu ! Moteur, moteur !
Vas-y, vas-y, Jean-Pierre.
Moteur, moteur !
On vient d'apprendre la mort du réalisateur Jean-Pierre Mocky à 86 ou 90 ans. Sa date de naissance varie selon les biographies. Figure de proue d'un cinéma indépendant et contestataire, Jean-Pierre Mocky est l'auteur de plus de 60 longs métrages et de plusieurs dizaines d'épisodes de séries pour la télévision. Il tournait tout le temps en étant totalement affranchi des systèmes de financement classiques du cinéma français, tout en sachant convaincre les plus grands de s'embarquer dans ses tournages fantasques. Catherine Deneuve, Jane Birkin, Michel Serrault, Aznavour, Jacqueline Maillan, Jeanne Moreau, entre autres, ont été pour lui de fidèles compagnons dans des films comme Noir comme le souvenir, Les saisons du plaisir, Agent trouble, À mort l'arbitre, Le miraculé et tant d'autres. Il fut aussi acteur, sous l'œil notamment de Jean-Luc Godard, dans l'hilarant Grandeur et décadence d'un petit commerce du cinéma, où il incarnait un producteur fou, un rôle sur mesure. Merci beaucoup Gérard Garouste d'avoir été avec nous dans le MAC de l'été. C'était une grande joie de vous recevoir. Je rappelle que votre exposition Gérard Garouste et l'école des prophètes courra jusqu'au 29 septembre au lieu de mémoire de Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Et je rappelle aussi que l'exposition Le marché de l'art sous l'occupation est visible jusqu'au 3 novembre au mémorial de la Shoah à Paris. Et je conseille aussi vivement aux auditeurs de lire votre autobiographie, un autoportrait écrit avec Judith Pérignon. Le livre s'appelle L'Intranquille. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe, avec l'aide de Maëlan Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Elsa Béranger, à la prise de son Alexandre Chenet et Charles Leca. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Yves Decamp pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.